Laudetur Jesus Christus.
Inondations catastrophiques en Allemagne et en Belgique, où respectivement 81 et 12 personnes ont perdu la vie ces dernières heures. Des dizaines d'autres sont encore portées disparues. La montée des eaux a ravagé plusieurs communes dans le bassin rhénan. Saad Hariri renonce à diriger le prochain gouvernement libanais. Après 9 mois de tentatives pour former une équipe, il a pris acte du blocage politique qui dure depuis l'explosion du 4 août dernier. Conséquence de la pandémie de Covid, la vaccination des enfants à travers le monde contre un certain nombre de maladies a pris du retard, ce qui préoccupe l'ONU. Les Nuits de Lourdes, initiative estivale pour mieux faire découvrir la grâce propre au sanctuaire de Lourdes. On en parle dans notre dossier, c'est à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. C'est la pire catastrophe naturelle que connaît l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ouest du pays ces derniers jours ont fait déborder plusieurs rivières du bassin rhénan, dévastant plusieurs communes. Le bilan est très lourd. Selon les derniers chiffres des autorités locales, il y aurait 81 morts, des dizaines de personnes sont encore portées disparues et 200 000 étaient privées d'électricité. Le point à Berlin avec Nathalie Versieux.
Toute la journée, les secours ont tenté de sauver des personnes bloquées sur les toits ou isolées chez elles. Dans plusieurs villes et villages, des maisons traditionnelles à colombages se sont effondrées. Un hôpital a dû être évacué, privé d'électricité. À Waldsportsheim, les habitants racontent comment une vague de boue de 4 mètres de haut a traversé leur village hier vers 22h30, ne laissant que quelques minutes aux habitants pour se mettre à l'abri dans les étages. En partie privés d'électricité, de réseau mobile, la Rhénanie-Palatinat est sinistrée. L'Allemagne est habituée aux inondations en cette saison, mais jamais les crues n'avaient pris de telles proportions. À quelques semaines des élections, les Verts comme les conservateurs évoquent déjà la piste du réchauffement climatique. En 2002, Gerhard Schröder, chaussé de bottes, avait arpenté l'est de l'Allemagne inondée, une visite très médiatisée qui avait facilité sa triomphale réélection. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
Et face à l'ampleur de cette catastrophe, le pape a envoyé un télégramme au président de la République fédérale d'Allemagne pour lui dire qu'il priait pour les victimes et pour exprimer sa plus profonde sympathie à leurs familles et son soutien à tous ceux qui sont concernés, sans oublier les sauveteurs. La Belgique est également concernée par les crues des rivières et déplore pour le moment 12 victimes. 4 personnes sont toujours portées disparues. L'armée a été déployée en Wallonie. Les transports sont quasiment à l'arrêt dans tout le sud du pays. Le Luxembourg et les Pays-Bas sont eux aussi touchés par cette montée des eaux. Restons en Europe, où la Commission européenne se dit profondément préoccupée par la décision du tribunal constitutionnel polonais de s'opposer à des mesures décidées par la Cour de justice de l'Union européenne. Bruxelles rappelle à Varsovie la primauté du droit européen sur le droit national. Varsovie également critiquée pour ses zones sans idéologie LGBT décrétées par certaines collectivités locales. Quant à la Hongrie, la Commission a lancé des procédures d'infraction contre Budapest à propos, cette fois, de la loi interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Dans les deux cas, Bruxelles a envoyé à chacun des deux gouvernements une lettre de mise en demeure leur donnant 2 mois pour répondre. Au Liban, le premier ministre désigné Saad Hariri a finalement jeté l'éponge 9 mois après avoir été chargé de former un nouveau gouvernement. Première conséquence de ce départ, la chute de la livre libanaise, la monnaie nationale et des heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre. À Beyrouth, Paul Ralifé.
Une forte tension mêlée à un vent de panique règne au Liban depuis l'annonce jeudi après-midi par le premier ministre désigné qu'il renonçait à former le prochain gouvernement. Saad Hariri s'est récusé en invoquant de profondes divergences avec le président de la République, Michel Aoun, qui lui aurait réclamé des modifications qu'il a jugées fondamentales dans la mouture gouvernementale. La présidence a pour sa part précisé dans un communiqué que Saad Hariri ne s'était pas montré disposé à discuter du moindre changement à la proposition d'un gouvernement de 24 ministres qu'il avait soumise la veille au chef de l'État. Elle a aussi jugé anticonstitutionnel le délai de 18 heures donné par Saad Hariri à Michel Aoun pour qu'il se prononce sur la mouture du premier ministre. Saad Hariri avait à peine jeté l'éponge que la livre libanaise atteignait un bas historique face au dollar. Dans le même temps, des partisans de Saad Hariri en colère ont fermé des routes dans tout le pays pour exprimer leur solidarité avec le leader sunnite. De violents affrontements se sont produits entre des manifestants et l'armée qui a tiré en l'air pour éloigner une foule menaçante dans un quartier de Beyrouth. La communauté internationale et de nombreux hommes politiques libanais s'inquiètent d'une grave détérioration de la situation après ce développement dramatique. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et les États-Unis ont jugé décevant ce renoncement de Saad Hariri. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken juge essentiel qu'un gouvernement engagé et capable de mener des réformes prioritaires soit maintenant formé. Bataille en Afghanistan autour du poste frontière de Spinboldak, aux confins avec le Pakistan. Depuis mercredi, il est aux mains des talibans, mais l'armée afghane et la police tentent depuis ce matin de le reprendre. Signe de l'inquiétude de nombreux Afghans face à l'avancée des talibans, environ 20 000 personnes qui ont aidé l'armée américaine, notamment comme interprètes, ont demandé à être évacuées par les États-Unis, un nombre qui n'inclut pas leurs familles. C'est ce qu'indique la Maison Blanche, qui précise que les vols d'évacuation devraient commencer la dernière semaine de juillet. Et puis, dans l'ouest du pays, dans la province de Baghi, un cessez-le-feu d'une durée indéfinie a été conclu aujourd'hui à l'initiative des chefs traditionnels entre les talibans et les autorités locales. Le bilan des violences en Afrique du Sud depuis près d'une semaine s'élève maintenant à 117 morts. Ce matin, la région autour de Johannesburg est largement calme, a affirmé une ministre. L'ONU exprime son inquiétude au sujet de la vaccination des enfants, non pas contre la Covid-19, mais contre d'autres maladies graves. Les programmes de vaccination infantile ont en effet pris beaucoup de retard dans le monde ces derniers mois à cause de la pandémie, ce qui rend Adélaïde Patrignani plus vulnérable des millions d'enfants.
Et oui Xavier, les effets se font déjà sentir. Le Pakistan par exemple doit faire face à une résurgence de la rougeole. Sur tous les continents, le nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés augmente. En 2020, 23 millions d'enfants n'ont pas reçu les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche selon l'OMS et l'UNICEF. 17 millions n'ont sans doute pas eu une seule dose du jamais vu depuis 2009. L'Inde affiche des records avec 3,5 millions d'enfants non vaccinés et aussi le Mexique avec la plus forte hausse en un an. La plupart de ces enfants habitent dans des zones de conflit, des endroits reculés ou des bidonvilles privés d'infrastructures de santé. Ces chiffres sont un signal d'alarme clair selon la directrice de l'UNICEF. Un recul dû à la pandémie de Covid-19. La lutte contre le coronavirus a mobilisé des ressources au détriment de la vaccination infantile et la levée des restrictions sanitaires a favorisé un regain des contaminations. D'après Henrietta Fore, les conséquences vont se payer en morts et en perte de qualité de vie des plus vulnérables. En 2021 pourrait se produire une catastrophe absolue, a prévenu l'OMS. Covid-19, rougeole, polio ou encore méningite. Pour éviter plusieurs épidémies à la fois, il est donc urgent de protéger aussi les enfants.
Adélaïde Patrignani, et concernant l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines de la pandémie de Covid-19, l'OMS demande à la Chine de mieux coopérer pour savoir ce qui s'est véritablement passé. Il y a deux problèmes, selon le directeur de l'organisation, le partage des données brutes et la tentative prématurée, selon lui, de réduire le nombre d'hypothèses comme celle du laboratoire. On commence à en savoir davantage sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, ou plutôt la confusion s'installe. C'est pourquoi la police nationale haïtienne est vite montée au créneau pour contredire certaines informations en provenance de Colombie, selon lesquelles Claude Joseph, le premier ministre par intérim, serait impliqué dans l'assassinat du président. Le point sur l'enquête avec Franz Emmanuel.
C'est une information qui avait vite enflé et qui a été démentie par la police nationale d'Haïti. Selon la PNH, contrairement aux allégations de certains médias colombiens, il n'y aurait à ce stade de l'enquête aucun lien entre l'assassinat de Jovenel Moïse et l'actuel premier ministre en place, Claude Joseph. Léon Charles, le directeur de cette PNH, a même donné des précisions sur ce meurtre qui continue de bouleverser Haïti. L'assassinat aurait été planifié depuis la République dominicaine voisine, dans un hôtel de Santo Domingo, la capitale. Une photo des commanditaires et des cerveaux de l'opération a été présentée à la presse, parmi lesquels le principal responsable, un certain Christian Emmanuel Sanon, arrêté le 11 juillet dernier. À ce stade, 23 personnes ont été interpellées, 18 Colombiens et 5 Haïtiano-Américains. La police recherche d'autres suspects, dont un ancien sénateur. Par ailleurs, des mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de 24 agents et chefs de sécurité en charge de la protection du président Jovenel Moïse. 4 de ces agents ont été mis en isolement. Fort de France, Franz Emmanuel, Radio Vatican.
Et la France juge qu'une intervention militaire n'est pas d'actualité en Haïti. Le ministre français des Affaires étrangères plaide en revanche pour l'envoi de policiers internationaux sous l'égide de l'ONU. Il a laissé entendre que la France serait disposée à fournir des gendarmes pour une telle mission si besoin. C'est à Lourdes qu'Emmanuel Macron, le président français, conclut ce vendredi son déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Il y rencontrera les élus et les acteurs locaux du tourisme, ainsi que le recteur des sanctuaires, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas. Il sera bien sûr question de la relance des pèlerinages, sévèrement touchés par la crise de la Covid-19. La cité mariale, qui vit du tourisme, en effet perdu 80% de sa fréquentation en 2020, et la situation reste très compliquée. Malgré cela, Lourdes veut se relever. Les sanctuaires ont lancé depuis le 1er juillet, les Nuits de Lourdes, qui permettent aux pèlerins et visiteurs de redécouvrir la beauté et la grâce du lieu. Cette initiative estivale veut donc contribuer au relèvement d'une économie locale en souffrance, mais pas seulement. Elle porte en elle une véritable mission d'évangélisation, comme nous l'explique Mgr Xavier Darod, vice-recteur du sanctuaire de Lourdes.
C'est pas seulement pour relancer la fréquentation du sanctuaire, ça se veut également une démarche profondément pastorale d'évangélisation. C'est-à-dire que l'on se rend compte que les grands pèlerinages ne peuvent pas venir cette année en raison des difficultés d'organisation que beaucoup ont. Alors ils viennent, les pèlerinages sont néanmoins présents, pas dans le même format. Et il nous semblait important du coup de pouvoir nous adresser aussi à des individuels, des gens qui viennent en vacances dans les Pyrénées, pour pouvoir leur présenter le message de Lourdes, de façon aussi accessible pour des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de la vie quotidienne de l'Église, et donc présenter ce message à la fois dans une représentation, donc dans ce récital, mais également dans une procession au flambeau qui permette de faire vraiment l'expérience de la prière et qui soit accessible à des gens qui fréquentent peut-être moins souvent nos églises, les populations nouvelles ou que nous ne voyons peut-être pas autant dans les années précédentes. Et désormais, c'est donc une initiative d'évangélisation avant tout.
Évidemment, il n'y a plus les grands groupes de pèlerins, par exemple d'Amérique du Sud ou d'Asie, qui commençaient vraiment à constituer une grande part de ces pèlerins les années précédentes, en tout cas avant la pandémie. Et on remarque qu'il y a plus de Français. Vous diriez que les Français sont en train de réinvestir ce lieu de pèlerinage et de le redécouvrir d'une certaine manière?
On voit que les Français sont en quête de sens, de retrouver justement des choses essentielles. Et ils viennent à Lourdes déposer aussi l'expérience qui fut la leur pendant ce confinement et pendant cette pandémie. Beaucoup ont souffert. Et donc, ils viennent très simplement ici déposer leurs intentions de prière. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'intentions de prière que nous recevons chaque jour par Internet. Mais le fait de le faire à distance n'est pas suffisant. Les gens ont bien compris qu'il fallait faire soi-même cette expérience de prière et d'intercession. Donc, ils redécouvrent ce pèlerinage avec une façon peut-être différente de faire, mais qui marque justement cet attachement à notre mère, la Vierge Marie.
Évidemment, les sanctuaires et au-delà, la ville de Lourdes elle-même ont beaucoup souffert pendant cette période de pandémie. Est-ce que les sanctuaires, la cité mariale, commencent malgré tout un peu à relever la tête ou bien c'est toujours très difficile?
C'est toujours très difficile, mais il y a quelque chose dont je ne cesse de m'émerveiller, qui est en fait la générosité des gens. C'est vrai que nous avons été en déficit à cause du manque de fréquentation, mais les gens ont compensé cela justement par leur générosité. Il y a une responsabilité du sanctuaire vis-à-vis de son environnement, de la ville, des hôteliers, des commerçants, parce que le sanctuaire ne peut avoir ce rayonnement et accueillir les foules que pour autant que, effectivement, nous avons ces infrastructures tout autour. Et donc, le sanctuaire a une responsabilité vis-à-vis de tous ses partenaires. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus pour pouvoir travailler de conserve pour la relance de Lourdes. La reprise est lente, plus lente que nous ne l'espérions, mais néanmoins elle est réelle. Pour moi, le signe profond de l'espérance, c'est que jamais, jamais, les fidèles et les pèlerins, les amis de Lourdes ne nous ont laissé tomber. Et donc, ils nous ont permis de traverser cette épreuve, justement en nous en donnant les moyens. Et donc, nous sommes en train de nous relever d'une certaine façon plus fort.
Interrogé par Manuela Figi, Mgr Xavier Darod, vice-recteur du sanctuaire de Lourdes, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.